RCF.
Je pense, donc j'agis. En direct de votre jardin, Melchior Gormand.
Et oui, jusqu'à 11h, je pense donc que j'agis, se mettre au vert à travers le jardinage. Vous le savez, on agit pour la terre et pour la planète. Chaque vendredi, nos jardiniers engagés pour un jardinage écologique nous rejoignent pour vous écouter en direct de votre jardin. Vous avez une question sur vos jardins, jardins potagers, pelouses ou plantes d'intérieur. On ouvre le standard pour vous écouter. Et puis notre jardinier du jour va vous donner plein de bons conseils. Vous avez trois moyens pour participer à l'émission. On vous attend nombreuses et nombreux. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui est au standard 04 72 38 20 23. Vous posez vos questions avec photo, si possible, dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis » et vous envoyez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense donc j'agis avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir. C'est ce que fera Marion Denis du think tank Vers le haut à 10h20. Elle nous parlera d'éveil artistique pour les plus jeunes. Bonjour Clément Doche.
Bonjour Melchior.
Comment ça va Clément?
Bah ça va plutôt bien, franchement.
C'est votre première radio, hein, je crois, en tout cas sur RCF.
Ah, RCF.
Vous êtes jardinier, animateur et formateur à terre et humanisme. Merci d'ailleurs aux équipes de Priva qui vous accueillent ce matin en studio, Clément. Comment vous appréhendez cette émission? Est-ce que vous êtes un peu stressé ou alors vous avez hâte d'écouter toutes les questions de nos auditeurs?
Ah bah curieux de savoir ce qu'on va me poser comme question.
Je pense qu'il va y en avoir beaucoup, hein, comme chaque vendredi au 04 72 38 20 23. On a choisi un fil rouge qui va nous accompagner jusqu'à 11h, Clément. Ce sont les semences. Pourquoi vous avez choisi ça?
Alors, pourquoi les semences là en novembre-décembre? C'est pas du tout la période des semis. Par contre, c'est la période pour choisir ses semences, pour les acheter. On peut se mettre au coin du feu, il n'y a plus grand chose à faire dans le jardin, se mettre au coin du feu et regarder un peu les catalogues de semences pour choisir les meilleures, sachant que si vous vous y prenez trop tard, si vous attendez mars ou avril, les bons jardiniers auront déjà tout récolté, tout acheté et il vous restera pas grand chose sous la main. Donc c'est vraiment le moment de faire son choix, de semences adaptées à son terroir, de faire son choix en fonction de son plan de culture. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de parler un peu de plan de culture, de rotation, d'association, pour prévoir la saison 2022 au mieux.
Donc les semences, on le rappelle Clément, ce sont les graines, hein, bien sûr qu'on va planter dans le jardin, si je me trompe pas. Je pense qu'il ne faut pas être expert pour connaître ce que sont les semences en jardinage. C'est important aussi, et ça on le répète à chaque fois, de bien connaître son sol. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où.
Ben ouais, il y a différentes natures de sols. Il y a des sols qui sont plutôt argileux, donc collants, d'autres qui sont plutôt sableux, donc qui vont drainer rapidement l'eau. Donc, faut essayer de choisir des variétés qui sont adaptées, surtout quand on veut planter des arbres. Donc, demandez bien à votre pépiniériste de vous fournir des arbres en fonction de votre sol. Donc, faut un petit peu connaître la nature de son sol. Et après, c'est pareil pour les plantes. Il y en a qui vont se plaire plutôt dans des sols un peu collants. Les carottes préfèrent quand même globalement le sable, sauf quelques variétés de carottes comme les carottes de Colmar, qui peuvent se satisfaire d'un sol un peu argileux. Donc voilà, faut vraiment essayer de se mettre à la place de son légume, hein, c'est pas toujours évident, mais c'est faisable, pour voir ce qu'il appréciera le mieux dans son jardin.
Et quitte à faire des tests, peut-être aussi, Clément, si on a fait des plantations l'année précédente, voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour ajuster.
Ouais, moi je trouve qu'il faut toujours un petit peu tester. Ce qui ne marchera pas une année marchera peut-être l'année suivante. Il y a des légumes qui marcheront rarement ou jamais, mais il faut toujours les essayer parce que son sol va changer, va évoluer aussi. Plus on va jardiner, plus théoriquement, si on fait bien les choses, son sol va s'améliorer. Donc si les carottes marchent pas la première année, peut-être que 5 ans après, ça marchera parce que à force d'apporter du compost, à force d'avoir alimenté la vie du sol, notre sol sera plus capable d'accueillir les carottes qui, elles, ont besoin d'un sol bien meuble, bien tendre.
Et bien sûr, si vous avez des questions sur vos semences, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Et puis Clément Doche, notre expert du jour, notre jardinier du jour, va répondre à vos questions. On va accueillir notre première auditrice de la matinée, c'est Brigitte qui habite à Tours. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour. Donc cette
une question au sujet d'un citronnier que j'ai en pot depuis quelques années, qui a une relative bonne croissance, hein, qui fait environ 1 mètre. Et puis là, depuis septembre, je m'aperçois que sur une branche, j'ai les anciens citrons, et sur une branche beaucoup plus importante, eh bien, j'ai plus les citrons d'origine, je pense qu'ils dégénèrent, et j'ai comme des petites mandarines. Donc, voilà ma problématique. Donc, je ne sais pas si c'est que c'est une histoire de greffe, enfin, l'ancien qui prend le dessus. Enfin, j'imagine un truc comme ça. Et je ne sais pas ce que je dois tailler ou si je laisse ça en l'état. Mais en tout cas, ça ressemble plus trop à des citrons, ce que j'ai maintenant.
Ah, mais c'est intéressant, ça, Clément Doche.
J'ai un bi-arbre fruitier sur le même, voilà.
Eh ben ça peut être intéressant, si ça se trouve vous avez un nouveau fruit qui est très bon aussi. Après, ce que vous pouvez regarder... Comment ?
Oui, j'y ai goûté, ça ressemblerait un peu à... Alors c'est gros comme des petites clémentines, un peu amères, un peu un goût de bergamote je dirais, enfin je sais pas, bon.
À la base vous aviez des citrons, Brigitte, vous confirmez ?
Oui, que des gros citrons, un peu, parce qu'il y a plusieurs espèces, celui-là il est un peu ovoïde. Mais ceux actuellement n'ont rien à voir. Hein. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est même pas des citrons. Hein. C'est... c'est autre chose.
Alors, vous pouvez regarder peut-être où est le point de greffe.
Oui.
Donc, généralement, c'est plutôt en bas du tronc. Est-ce que cette branche qui produit ces nouveaux citrons pousse en dessous du point de greffe ou pas ? Ça peut être déjà une indication.
Mais elle est très, très dominante hein, sur cette branche-là.
D'accord.
Voilà,
Les citrons sont greffés sur du citrus, donc sur des variétés de citrons. Donc normalement, ça doit rester du citron.
Ouais.
Alors là, sans avoir le spécimen sous les yeux, c'est un peu difficile de vous répondre. Mais je pense que ça doit être sûrement une histoire de point de greffe, peut-être une branche qui pousse sous le point de greffe.
Oui.
Donc
peut-être que je la taille. Parce que ça peut être.
Alors, taillez-la parce que
c'est très intéressant. Hein. J'ai goûté. Bon, c'est petit, c'est. Bon, ça ressemble un peu à l'orange mer, à bergamote. Enfin, ça m'a évoqué un peu ce genre de choses. Mais
D'accord.
C'est des citrons sans être non plus des bonnes mandarines, quoi. C'est pas non plus...
Taillez-la pour pas que ça prenne toute l'énergie du...
Je pense que là, ça prend toute l'énergie. Hein. C'est une branche qui est importante. Donc, je peux l'acier maintenant, c'est le bon moment ou je laisse comme ça pour l'hiver ou...
Alors non, les agrumes, ça peut se tailler globalement toute l'année, donc là vous pouvez y aller.
Ouais.
Après, essayez de vous renseigner. Alors je peux pas vous faire un dessin comme ça là par la radio, c'est pas évident. Mais essayez de bien faire les tailles. Souvent, on laisse un petit... ce qu'on appelle un petit trognon à la branche. Faut bien couper les branches à l'intersection d'un œil et de la branche. C'est pas évident à expliquer comme ça.
Oui.
C'est beaucoup plus simple sur place. Mais regardez peut-être sur Internet, mettez taille des agrumes et vous aurez des schémas qui vous expliqueront bien ça.
Et n'hésitez pas à nous envoyer une photo, peut-être, Brigitte, je ne sais pas si vous avez Internet avec vous. Envoyez-nous un mail à l'adresse direct@rcf.fr et comme ça, on pourra regarder ça. Clément, je vous enverrai la photo. Hein. On fera une analyse.
Avec plaisir.
Une analyse d'expert en citronnier. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, Brigitte, en direct de Tours, au 04 72 38 20 23. On continue. On a Martine qui habite à Nyon. Bonjour Martine.
Ah bonjour et merci pour cette émission que j'attends.
Eh ben, avec plaisir.
Alors voilà, je fais moi-même mes graines. J'ai un petit potager, un petit, hein, mais ça m'apaise beaucoup. Alors j'ai fait mes graines de poivron, c'est un poivron long. Je ne sais pas exactement la variété que ce c'est parce que je l'ai acheté à un semencier bio qui est en biodynamie, mais j'ai l'impression qu'ils ont interchangé les étiquettes dans les godets. Bon, toujours est-il que les semences sont sèches maintenant, mais certaines présentent du noir au centre, d'autres sont totalement blancs, enfin nets des deux côtés. Qu'est-ce que c'est que ces points noirs au centre? Et à mon avis, il vaut mieux pas les mettre. Qu'en pensez-vous?
Bonjour Martine. Déjà, c'est super d'essayer de faire ses graines. Ça, c'est un acte fort du jardin de reproduire ses graines.
Depuis longtemps.
D'accord, ouais, ça permet vraiment d'aller de ce qu'on appelle de la graine à la graine. Donc vous achetez des graines et vous reproduisez vos graines vous-même. Après sur le poivron, donc si vous les avez bien fait sécher, Et si vous voyez quand même des petits points noirs sur la graine. Sur certaines graines, ça peut être qu'il y ait eu des moisissures qui soient implantées au moment du séchement, parce que peut-être que c'était pas assez bien ventilé, ou voilà, il y a eu un petit souci à ce moment-là.
Justement, c'est dans ma cuisine, c'est là où je fais sécher toutes mes graines.
D'accord.
Ça m'est arrivé déjà avec des sachets de graines d'automates que j'avais achetées, les unes à la ferme de Sainte-Marthe et les autres à Cocopelli, où il y avait des graines qui étaient plus foncées au centre et que intuitivement j'ai écartées. Donc ce serait des moisissures alors. Et pourquoi dans les mêmes conditions de séchage, certaines graines sont impeccables et d'autres développent cette espèce de noirceur au centre?
Alors des fois, en fait, il y a des graines qui dégénèrent, qui sont moins résistantes et qui vont plus facilement prendre tel ou tel parasite, champignon ou bactérie. Donc ça peut expliquer ça. C'est un peu de la sélection naturelle, quoi, finalement. Après, ça peut être les conditions de séchage. S'il y a deux graines qui sont un petit peu collées l'une à l'autre, s'il y en a une qui est un peu collée sur le papier ou sur le sopalin que vous avez utilisé, ça peut maintenir un peu trop d'humidité qui fait qu'il y a de la moisissure. Après, ça, c'est pas forcément que de la moisissure. Ça peut être aussi des fois, il y a de la diversité dans le vivant. Et donc, il y a peut-être certaines graines qui prennent une petite pigmentation. Cela dit, j'ai jamais trop vu ça sur des graines de poivron ou de tomates. Donc, le coupable semble plutôt être un champignon. Moi, je les jetterai pas forcément. Peut-être au printemps, quand le soleil revient un petit peu, essayez de semer quelques-unes de ces graines-là en godet derrière votre fenêtre au soleil pour voir si ça germe quand même. Et moi, je tenterai le coup quand même. Ça me fait toujours un peu mal au cœur de jeter des graines,
oui,
même
sûr.
Si dans l'idéal, c'est vrai que c'est bien de faire le tri.
Voilà, Martine, vous pouvez essayer.
Et puis Pierre, j'avais une autre. Merci beaucoup. J'avais une autre question.
Alors,
j'ai fait un jardin en lasagne parce qu'à l'origine la terre était argilo-calcaire, elle était très pauvre. Donc j'ai fait un jardin en lasagne avec de la matière organique et de la paille, des herbes coupées. Bon, mais quand même, elle manque de corps. Elle manque de corps, c'est-à-dire que j'ai pas des fruits gros, j'ai des pommes de terre petites, ça se tient pas en fait. Voilà, ça se tient pas comparé à un autre jardin qui avait de la terre limoneuse sableuse avec un apport de compost maison, ça se tient beaucoup mieux, c'est complètement le jour et la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter à cette terre de lasagne, en fait, pour qu'elle ait du corps?
Alors, vous l'avez fait il y a combien de temps, cette lasagne?
Ça fait la troisième année, et bon, je l'ai enrichi encore, je les ai enrichis encore l'année passée. Bon, j'ai fait des semis, là, d'engrais vert, de vesse, de facélie. Et puis j'ai mis sur certaines un petit peu du trèfle pour voir un petit peu. Et puis il y en a d'autres que j'ai laissées comme ça, qui sont encore paillées pour le moment, parce qu'il y a encore des cultures. Mais disons, c'est que de la matière organique, mais il n'y a pas vraiment de terre.
D'accord. Et le sol sur lequel vous avez fait cette lasagne, c'est un sol plutôt sableux, plutôt...
Très calcaire. Argilo-calcaire, mais calcaire.
Argilo-calcaire, d'accord.
Donc,
en fait, une lasagne, ça vieillit dans le temps. Hein. Donc, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, il peut manquer un peu soit de structure, mais aussi de nutriments dans cette lasagne. Même si vous êtes sur un sol argilo-calcaire, qui souvent, ça dépend si vous n'avez pas trop de calcaire, mais globalement, qui peuvent être des sols pas trop mal. Donc, ça peut mériter soit de relancer une lasagne, soit de faire un bon amendement en compost. Vous amenez du compost sur cette butte-là pour la maintenir sa vigueur, sa fertilité. Parce que là, si vous avez enchaîné plusieurs années avec des patates, peut-être des tomates, des poivrons, qui sont plutôt des légumes gourmands, là, vous avez bien puisé dans cette lasagne. Même si vous avez fait des engrais verts et autres, au bout d'un moment, il faut rendre un petit peu au sol un peu de nourriture. Donc soit vous la laissez un peu tranquille cette année en mettant des engrais verts dessus, soit vous rapportez une bonne dose de compost, éventuellement même du compost demi-mûr, pas complètement mature, pour relancer un peu sa vigueur. Même des fois, nous, ce qu'on fait des fois à Terre Humanisme, c'est que quand on a une butte lasagne qui, au bout de quelques années, ne donne plus rien, on relance carrément une butte lasagne sur cette butte lasagne. Donc on refait ce système de couches carbone-azote-carbone-azote. Pour relancer la vigueur, mais ça, c'est vraiment quand le sol à l'origine est pas très bon.
Et ben voilà, je pense.
Après,
oui.
Peut-être dernier conseil, si c'est un sol argileux calcaire aussi, il a plutôt tendance à se tasser. Donc ça peut être peut-être intéressant aussi de décompacter ce sol-là, peut-être avec la grelinette, pour essayer de ramener de l'oxygène dans le sol. Et c'est cet oxygène-là aussi qui va dynamiser la vie du sol et qui va libérer des minéraux, des nutriments dans le sol. Donc peut-être aussi essayer de faire un travail du sol à la grelinette. À l'emplacement de cette lasagne.
Voilà de bons conseils pour Martine. Merci Martine de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Lydie et Marie qui patientent au standard. Vous êtes déjà nombreuses à nous appeler. Les hommes, n'hésitez pas aussi. Hein. Vous avez la parole, tout comme les femmes, au 04 72 38 20 23. Clément Doche, justement, on parle des semences ce matin. C'est notre fil rouge. Quand est-ce qu'on peut semer le poivron ou même le piment? Parce que je crois que ça se ressemble énormément. Pour les plantations.
C'est la même famille.
Voilà.
Tous les deux, c'est des solanacées, comme les aubergines, les tomates. Tout ça, on peut commencer à les planter. Alors, les semer, si vous avez vraiment de la chaleur et de la lumière, vous pouvez commencer carrément fin février. Alors, nous, on les fait à Terre Humanisme sur couche chaude, c'est-à-dire qu'on fait des composts dans un milieu clos. Et ce compost va dégager de la chaleur et on se sert de cette chaleur, en fait, pour faire germer des graines qui ont besoin d'un peu de chaleur pour germer. Après, sinon, généralement, les gens le font plutôt mi-mars, voire début avril. Mais plus tôt on commence, et plus on va allonger le temps, le cycle du poivron. Donc, plus tôt, il va nous faire des fruits. Entre février, mars, avril, dernier cara, mi-avril.
Parfait.
Après, pour ceux qui ont qui sont plutôt au nord de la France, choisissez des variétés qui sont assez précoces pour que le poivron ou la tomate ou l'aubergine produisent assez rapidement. Parce que la saison est plus courte quand on est dans le nord.
Pour ces plantations de poivrons et de piments. On va retourner au standard retrouver Lydie. Lydie, vous êtes à Lyon, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Bonjour Lydie.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
Bonjour. Oui, merci. Alors je suis à Lyon, mais du coup j'appelle pour un petit jardin que j'ai dans le sud de la Drôme.
Oui.
Et en fait, du coup, j'ai commencé un petit verger avec 4 arbres et notamment un petit grenadier. Et en fait, je le trouve un peu seul. Je trouve que ça fait pas très joli. Et j'aurais bien aimé densifier cette zone autour de lui. Notamment parce que on parle beaucoup de jardin forêt en ce moment, je m'étais dit ça pouvait être une bonne idée de mettre un ou deux arbres à côté de lui, et voilà, je voulais savoir si vous avez des idées, enfin si c'était une bonne idée, un petit peu savoir ce que vous en pensiez.
Alors souvent les jardiniers veulent et les arboriculteurs amateurs veulent mettre beaucoup d'arbres au départ parce que on a l'impression que c'est un peu dégarni. Faut bien s'imaginer la taille de l'arbre en pleine croissance quand il aura quelques années. Il va prendre un peu plus de place, donc déjà faut essayer d'imaginer ça. Après, c'est vrai qu'un grenadier c'est un peu long et filé, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est bien de conserver au moins, au minimum vraiment 3 mètres, 3 à 4 mètres autour de chaque arbre.
D'accord.
Certains vont jusqu'à 6 mètres, voire même 8 mètres. Et après, ça va vraiment dépendre de la nature de votre sol. Vous avez un sol, vous connaissez un peu votre sol.
Oui, je le travaille, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à savoir exactement.
Alors, un bon indicateur, c'est est-ce qu'il colle aux bottes, est-ce qu'il colle aux outils, à votre sol.
De ce côté-là, non. Non, non.
Non, c'est plutôt une tendance limon-sable, à mon avis, si ça colle pas trop aux
gonesses. Un petit peu comme ça, oui.
D'accord. Donc après tout est possible hein, dans la Drôme, en plus c'est quand même une région d'arboriculture, donc ça peut être éventuellement des pêchers, des pommiers, des poiriers. Ce qu'il faut vraiment faire quand vous allez aller chez votre pépiniériste, c'est de lui demander des arbres en fonction du type de sol, hein. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure.
Oui.
Et donc là il va vous donner un arbre avec un porte-greffe qui est bien adapté au sol. Donc il y a des arbres qui vont plutôt être adaptés, des porte-greffes qui vont être plutôt adaptés à un sol calcaire, des porte-greffes qui vont être plutôt être adaptés à un sol acide. Donc il faut vraiment demander ça à votre pépiniériste. Si votre pépiniériste vous donne un arbre sans vous avoir demandé votre nature de sol, faut mieux pas lui acheter ce qu'il vous propose.
Oui.
Normalement il doit vous demander comment c'est chez vous.
D'accord.
Voilà Lydie.
Oui, et ben merci.
Merci à vous de nous avoir appelés ce matin dans Je pense donc j'agis. Se met au vert au 04 72 38 20 23. Je vais demander à Marie et Marie-Josée de patienter un petit peu au standard et vous continuez de nous envoyer vos mails, vos questions à l'adresse direct@rcf.fr. Également dans le groupe Facebook, Je pense donc j'agis. Clément Doche, est-ce que pour vous le jardinage, c'est une forme d'art?
Ah ouais, ouais, complètement, on peut dire ça. En fait, bah, quand on jardine, on peut composer un peu des tableaux, des mosaïques, de couleurs. On peut jouer sur les hauteurs entre les plantes, entre les légumes. On peut servir de plantes suffisamment grandes pour faire de l'ombre à des plantes qui sont un petit peu sensibles à l'ensoleillement excessif.
Eh bien.
Moi, j'aime pas trop le jardin monotone, oui. Tout plat. Alors, les lignes, pourquoi pas les lignes, mais en tout cas, un jardin bien fourni, bien dense, avec des couleurs et des hauteurs différentes, c'est toujours beaucoup plus sympa pour l'œil, pour la biodiversité, et aussi pour les récoltes.
Voilà, le jardinage, c'est aussi de l'art. On va justement parler d'éveil artistique tout de suite avec notre chroniqueuse.
Je pense donc j'agis, se met au vert, Melchior Gormand.
Bonjour Marion Denis.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous représentez ce matin le think tank Vers le haut et vous nous parlez donc d'éveil d'artistique pour les plus jeunes notamment.
Tout à fait. Alors la sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques favorise dès le plus jeune âge et avant même l'entrée à l'école maternelle la curiosité, la construction de soi et l'épanouissement de l'enfant. Et la rencontre avec le patrimoine culturel contribue au développement du langage, à la création, au développement de l'identité, mais aussi surtout à l'autonomie des enfants.
Et il est vrai que le ministère chargé des familles a beaucoup mis en avant ces sujets ces dernières années.
Oui, un protocole d'accord entre le ministère de la Culture et le ministère des Familles et de l'Enfance a été mis en place en 2017, notamment pour mettre en avant les initiatives qui existent déjà en France et mettre en relation les structures culturelles et les endroits qui accueillent les jeunes enfants comme les crèches et les écoles maternelles. Et le plus gros point de cet accord a été de développer un volet petite enfance dans la politique artistique et culturelle du ministère de la Culture.
Et concrètement, où les parents peuvent-ils emmener leurs enfants pour un moment culturel adapté aux plus jeunes ?
Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour la Philharmonie des enfants qui se trouve à la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement. Et c'est un parcours de visite spécialement conçu pour les plus jeunes de 4 à 10 ans. Les enfants peuvent visiter librement, sans guide ni médiation, mais quand même accompagnés d'un adulte. Ils découvrent la musique en s'amusant et c'est tout nouveau en plus. Ça a ouvert le 29 septembre.
Il s'agit donc d'une visite musicale, hein, si j'ai bien compris, Marion.
Oui, tout à fait. C'est un parcours qui emmène les enfants vers différents univers sonores pour qu'ils découvrent tous les sons qui nous entourent grâce à 50 thématiques. Donc il y a la forêt des sons, avec des sons produits essentiellement par des matériaux plutôt naturels. Il y a les machines sonores où les sons sont créés par des instruments techniques ou mécaniques. Mais il y a surtout le thème en scène où les enfants vont pouvoir se mettre en scène en s'emparant d'un instrument ou d'un micro pour s'improviser rockstar ou rappeur. Il y a encore plein d'autres thèmes et surtout il va y avoir des nouvelles installations à partir de 2022.
Et ces visites, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde ?
Oui, alors comme je vous le disais, ce sont pour les enfants de 4 à 10 ans et c'est seulement 5€ pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap. En revanche, il faut penser à réserver quand même.
C'est pas la première fois quand même que vous abordez le sujet des liens entre la musique et l'éducation. C'est un sujet qui vous parle particulièrement chez Vers le haut ?
Oui. Car l'éducation par l'art et avec l'art est une mine infinie de projets inspirants. D'ailleurs, on va publier le 15 décembre un rapport consacré à l'éducation artistique et culturelle. Il sera dispo sur notre site et même en version papier, l'occasion de découvrir encore plus d'initiatives dans ce domaine.
Merci beaucoup Marion Denis pour cette chronique avec Vers le haut.
Merci.
On peut retrouver plus d'informations sur le site verslehaut.org. Clément Doche, qu'est-ce que vous inspire cet éveil à la pratique artistique ?
Eh ben écoutez, ouais, c'est alors nous ce qu'on aime bien faire des fois au jardin, notamment avec les enfants, c'est des land art.
Ah oui.
On va prendre piocher un petit peu à droite à gauche dans le jardin. Des fleurs, des petits bouts de bois, des petits cailloux jolis et tout. Et puis avec les enfants, on peut les disposer pour faire des petits tableaux naturels. Souvent, c'est créateur de liens, ça fait du bien. Et puis comme disait une auditrice tout à l'heure, faire du jardin, être dans la nature, ça fait, ça fait clairement du bien à la tête. Et c'est même prouvé scientifiquement maintenant.
Bon. Nous, on continue de jardiner au moins jusqu'à 11h ce matin dans Je pense donc j'agis. Avec vous, Clément Doche, je rappelle que vous êtes jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. On peut le rappeler peut-être, Terre et Humanisme, vous organisez des formations. Alors là, c'est peut-être la pause hivernale. Par contre, vous allez reprendre vos formations en 2022.
Exactement, et on repart en 2022 à partir de février, les premières formations sur la taille des fruitiers. Mmh. On en parlait un petit peu tout à l'heure pour les agrumes, mais là on va plutôt parler de pommiers, de poiriers, de cognassiers. Comment tailler tout ça correctement? Souvent il y a des grosses bêtises qui sont faites dans les jardins, dans les vergers, au niveau de la taille. Donc ça peut être l'occasion d'apprendre ça, c'est sur une journée. Et puis après on va enchaîner avec tous nos stages habituels. Sur le potager agroécologique, sur comment produire ses plants, éventuellement même, il y a un stage sur comment concevoir un jardin partagé, ça peut intéresser certaines collectivités. Je vous invite à aller voir notre site internet avec notre catalogue de formation. Il y a au moins 20 thématiques différentes et le site internet, c'est terre-humanisme.org.
Voilà, terre-humanisme.org. Clément Doche, ce matin, on s'intéresse aux semences pour 2022, pour préparer les semences de 2022. On a justement Marie qui est avec nous, Marie qui habite à Villeneuve-les-Béziers, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Marie, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. On a un grand jardin, un grand terrain avec des oliviers, des citronniers, orangers, grenadiers, amandiers, pruniers, pommiers, tout. Voilà.
La totale,
pas mal d'arbres fruitiers, voilà. Mais j'ai un petit souci avec cette terre très collante parce que je voudrais mettre des plantes mellifères. J'ai une grande passion pour les abeilles. Et je mets des plantes seulement. Le problème qu'il y a, c'est que dans le sud, on a de fortes chaleurs l'été. Et je n'arrive pas à avoir de plantes pour les abeilles, en fait.
Ouais. Alors là, vous soulevez un problème vraiment dans les régions du sud de la France.
Oui.
C'est vrai qu'en juillet, août, même septembre, on manque un peu de fleurs. Il n'y a plus grand-chose.
Oui.
Donc il faut miser un peu sur des plantes, notamment des plantes vivaces qui peuvent fleurir quand même en été. Je pense à la lavande qui est pas mal, le romarin qui refait plusieurs floraisons des fois au cours de l'été, pour un peu aider les abeilles à avoir quelque chose à se mettre sous la trompe. Après, je peux aussi vous inviter à essayer de semer des engrais verts, peut-être pour décompacter le sol chez vous. Vous pouvez semer des engrais verts entre vos arbres l'automne ou au printemps, ça marche aussi, mais l'automne, c'est pas mal. Ça va permettre aussi d'améliorer votre sol et éventuellement, il sera peut-être plus à même d'accueillir par la suite des fleurs annuelles qui vont pouvoir fleurir un peu en été.
D'accord.
On parlait aussi de semences tout à l'heure. Vous pouvez éventuellement tenter d'échelonner vos semis. Souvent, on a tendance à faire nos semis tous au même moment, en mars, avril. Mais après, il y a quelques fleurs qui peuvent se semer un peu plus tard. Le souci passe plutôt pas mal. Le cosmos aussi. À condition, après, de bien les arroser. Donc, je ne vous ai pas encore posé la question, mais est-ce que vous avez de l'eau sur ce terrain?
Oui, oui, oui.
Voilà, donc si vous avez de l'eau, après, faut bien sûr l'utiliser avec parcimonie et l'économiser. Mais pour un petit peu assurer la reprise de vos semis ou de vos plantations de fleurs, vous pouvez en semer en juin et elles vont vous faire des fleurs en juillet-août, à condition qu'elles aient quand même un petit peu d'eau si jamais il ne pleut pas cette année-là.
Oui, on a eu beaucoup de problèmes cette année parce que nous n'avons pas eu de pluie pendant 4 mois à peu près. Mmh. Voilà, et il a beaucoup plu ces jours-ci, là, et j'ai fait une tentative, j'ai semé des plantes mellifères, et j'ai remis par-dessus du terreau, je vais voir ce que ça va donner cet été, mais j'ai déjà de la lavande, j'ai du romarin, on a plein de plantes mellifères, mais ce que je voulais, moi, c'est des plantes florales, quoi.
Je comprends. Patient, alors.
Ouais, mais en tout cas, c'est une très bonne idée de les avoir semés là à l'automne. Il y a beaucoup de fleurs, notamment les fleurs endémiques, c'est-à-dire celles qui poussent naturellement en France, en Europe, aiment bien passer un petit coup par l'hiver, ressentir le froid pour mieux germer. Nous, des fois, on voit les plantes qu'on sème, les fleurs qu'on sème au printemps vont avoir du mal à lever parce qu'elles n'ont pas connu un vrai hiver, alors que les fleurs qui sont semées naturellement, qui sont ressemées au jardin, elles vont bien germer parce qu'elles ont connu l'hiver. Donc, les avoir semées à l'automne, c'est plutôt une bonne idée.
Voilà, Marie, pour vous aider ce matin.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Vous nous appelez pour venir à l'antenne pour poser vos questions à Clément Doge qui vous écoute ce matin. Clément, je rappelle que vous êtes jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. Dans un instant, on accueillera Marie-Josée de Vélo. Je crois que c'est le nom de la ville de Marie-Josée. On se retrouve dans un instant, toujours en direct. À tout de suite. 10h32 sur RCF. On écoute un jeune chanteur, Blossom, et on se retrouve juste après en direct sur RCF pour jardiner jusqu'à 11h.
Je passais le bras autour de toi comme dans un rêve. C'est drôle, mais depuis quelques temps, je sais plus le faire. Tu parles de nous comme si on était amoureux. La vérité, c'est qu'on est seuls. J'attends qu'un miracle vienne nous surprendre. Seulement tout pouvait retenir comme avant. J'espérais tant hier me voir briller dans tes yeux. Et aujourd'hui je t'aime, seulement la passe c'est mieux. Et si le temps qui passe n'a rien à voir là-dedans, j'ai besoin de toi peut-être comme un médicament.
C'était Blossom sur RCF Médicaments.
Je pense donc j'agis se met au vert. Melchior Gormand.
Et toujours avec Clément Doche, jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. Tout va bien, Clément ? Clément, est-ce que...
On peut continuer.
Oui, on peut continuer. Eh bien, c'est parfait, on va continuer. On va aller dans les Bouches-du-Rhône rejoindre Marie-Josée qui n'habite pas à vélo, mais à Velo. Excusez-moi, Marie-Josée. Bonjour.
Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai un petit amaryllis en pot que j'ai acheté dernièrement, mais évidemment, il est fané. Et je voudrais savoir s'il faut faire quelque chose pour qu'il refleurisse.
Alors, je suis pas spécialiste de l'amaryllis. En général, les plantes en pot, donc ça, c'est une vivace. Voilà, peuvent avoir une petite période d'hivernage éventuellement et faner. Après, ça peut être intéressant quand même de voir et de la changer de pot pour la saison suivante. Mais à mon avis, ça va pouvoir repousser si vous la Si vous la changez de pot et au printemps, elle risque de revenir.
Je la garde à la maison, donc.
Et vous la gardez à la maison, voilà, dans un petit coin. Vous vérifiez bien que le terreau reste humide. Vous l'arrosez une fois par semaine maximum pendant l'hiver.
Ouais.
Et il y a de grandes chances qu'elle reparte à la saison prochaine.
D'habitude, je les laisse dessécher dans un coin, et puis au printemps, il n'y a que de la poussière.
Ouais. Et oui, c'est ça, ouais. Donc, il faut entretenir les racines hein, pour qu'elles puissent continuer à passer l'hiver tranquillement. Il faut quand même qu'elles reçoivent un peu d'humidité. Donc voilà, essayez de lui remettre peut-être du bon terreau, peut-être qu'il faut renouveler le terreau, la rempoter dans un pot éventuellement un peu plus grand et maintenir un bon arrosage pendant l'hiver.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Marie-Josée, de nous avoir appelé depuis Vélo au 04 72 38 20 23. Vous laissez également vos messages à l'adresse direct@rcf.fr. On enchaîne avec Françoise qui habite à Aubagne. Bonjour Françoise. Françoise, est-ce que...
Bonjour.
Bonjour.
J'éteins le poste.
Françoise ?
Oui.
Alors, je vais vous laisser couper votre radio derrière, peut-être. Hein.
J'ai plein de moustiques dans ma cuisine, parce que j'ai le jardin. Juste, j'ouvre la porte, je suis dans le jardin. Et avec les pluies, avec, je voudrais savoir quelles sont les plantes à planter ou les graines à semer contre les moustiques et aussi beaucoup d'abeilles, de guêpes. Enfin, j'arrête pas d'être piquée. Voilà ma question.
Alors ça, c'est une question précise. Hein.
Alors les moustiques, effectivement, ça peut être un peu pénible l'été. Alors avant de mettre des plantes pour éloigner les moustiques, faut aussi faire attention, et ça je pense que ça compte, ça, c'est pour tout le monde, à toutes les eaux stagnantes. Les moustiques se reproduisent vraiment dans l'eau qui stagne, donc les réserves d'eau, les coupelles sous les pots qui peuvent des fois rester en eau tout le temps, voilà, les vieux bidons qui peuvent traîner à droite à gauche dans le jardin, tout ça, ben, faut un peu faire la chasse, les vider. Ça, c'est vraiment une manière de réduire la propension des moustiques à se développer. Peut-être même aller voir un peu chez les voisins, des fois, si vous entendez bien avec eux, mais en tout cas, leur dire de faire un petit peu attention à tout ça. Et après, il y a quelques plantes qui peuvent marcher. Alors, faut vraiment en mettre beaucoup hein, pour que ça fonctionne. On connaît bien la citronnelle qui peut marcher. Alors, il faut en semer et en planter un peu tout autour de son jardin. Il y a aussi le géranium rosa qui est censé éloigner les moustiques. Mais vraiment, la première mesure à prendre, c'est de faire la chasse à toutes les eaux stagnantes. Donc, les récupérations d'eau de pluie, c'est souvent un peu le problème. On a envie de récupérer l'eau de pluie pour faire des économies ou pour bien arroser son jardin. Mais c'est beaucoup mieux si ces eaux de pluie récupérées sur ces toits sont fermées dans des bidons hermétiques pour pas faire propager les moustiques. Bon. Ça, c'est vraiment essentiel.
Voilà, Françoise, ce sujet piquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. On a Annie également qui habite à Saint-Salvador. Bonjour Annie.
Bonjour.
Bonjour, c'est à vous.
Eh bien, écoutez, ma question est la suivante. Nous avons planté des arbres fruitiers il y a 6-7 ans et ils ne produisent certains pratiquement pas du tout. Et on ne sait pas pourquoi.
D'accord. Alors, où est-ce que c'est, Annie, Saint-Salvador ?
C'est un petit village qui se situe entre Tulle et Limoges. D'accord.
Donc c'est en Corrèze, là. On est en pleine Corrèze. Oui. Alors du coup, Clément.
Alors donc ces fruitiers produisent pas du tout. C'est quels fruits qui viennent pas encore au bout de 6-7 ans?
Les prunes, et puis on a des pommiers, des poires.
Et tout, donc prunes, poires et pommes ne produisent pas du tout. Alors ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Des fois un arbre il prend un peu le temps pour produire. Il attend d'être bien implanté. Lui, son urgence, c'est pas forcément de produire des fruits. Hein. Il sait qu'il aura 30, 40, 50 ans pour produire des fruits et donc faire sa graine et du coup se reproduire. Donc ça peut vous embêter, mais lui, en tout cas, c'est pas grave pour lui. Ça veut pas dire forcément qu'il est en mauvaise santé. Après, faut quand même identifier. Est-ce que par chez vous, il y a, y a suffisamment de pollinisateurs? On manque d'abeilles ou de papillons pour un peu polliniser tout ça?
Écoutez, on a quand même des papillons. Je mets pas mal de fleurs maintenant depuis 2 ans.
Alors, une autre raison qui peut expliquer ça, vous êtes dans une région qui est quand même assez froide, je pense, Limoges.
Ah oui.
C'est pas des grosses chaleurs, notamment, je pense que l'hiver peut un peu traîner en mars-avril. Et mars-avril, c'est souvent l'époque où ces arbres-là font leurs fleurs. Alors, observez bien cette année, enfin en 2022. Mais des fois, quand il y a un gel ou aussi des fortes pluies au moment où il y a les fleurs, ça peut vraiment empêcher la fructification puisque toutes les fleurs vont mourir à cause du gel ou à cause de fortes pluies qui vont faire couler le pollen des fleurs. Donc ça, c'est assez fréquent finalement. Peut être la cause. D'ailleurs, l'année dernière, c'était la cause de pas mal de pertes dans les vergers parce qu'il y a eu le gros gel d'avril qui a tué toutes les fleurs sur les fruitiers.
Oui, mais en fait, on a plus de gel au mois de mai.
Et les gels de mai, ils sont souvent fatals pour les fruitiers. Est-ce que vous êtes exposé plein sud ou au nord ou...
On est plein sud, oui, on est au sud. Oui, les arbres sont plein sud.
Ok, donc vous avez peut-être un climat qui est peut-être un peu rude. Donc il y a certaines années où ça va passer, les fins d'hiver pas trop rigoureuses. Et puis c'est vrai que certaines années, peut-être à cause de ces gels tardifs ou à cause aussi des fortes pluies de printemps, vous allez peut-être perdre les plantes, enfin les récoltes. Après, une autre raison, ça peut être aussi... peut-être qu'une petite taille, alors vraiment on est sur de la taille douce, peut parfois relancer un peu la fructification.
Beaucoup taillé quand ils étaient jeunes, on les a vraiment bien taillés chaque fois. Chaque hiver,
Il ne faut pas trop les tailler, hein, je crois.
Voilà, donc si c'est trop taillé, ça peut aussi retarder la fructification. Il faut vraiment faire des tailles. Nous on dit pas tailler pas plus des branches qui sont pas plus grosses que le petit doigt. Quand on fait le plus gros, on fait vraiment des grosses blessures à l'arbre et il a du mal à s'en remettre. Surtout les pruniers. Tout ce qui est arbre à noyaux n'aime pas trop être taillé. Faut bien faire attention et aussi faire ses tailles au bon moment. C'est-à-dire que pour les poires et les pommes, on peut le faire plutôt en hiver, en général, ou des fois après récolte. Et pour tout ce qui est abricots, pêches, etc., c'est plutôt juste après la récolte. Et les cerisiers, eux, n'aiment pas du tout être taillés. C'est vraiment des petites tailles juste après récolte aussi.
Et ben voilà, Annie, pour tous ces conseils. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Et puis bon courage pour votre jardin. Une question de Marie. Nous avons sur notre terrasse un bougainvillier en pot qui a beaucoup fleuri jusqu'à maintenant. Avec les baisses de température, nous l'avons rentré dans notre séjour. Depuis, il perd ses fleurs et ses feuilles. Que faut-il faire, Clément? Faut-il continuer à l'arroser? Peut-il rester sur la terrasse avec un voile d'hivernage? Voilà cette question de Marie.
Alors le bougainvillier, ça nous vient des tropiques,
oui.
Il faut quand même se rapprocher des conditions tropicales pour ce bougainvillier. Donc je pense que c'est une bonne idée quand même de le rentrer à la maison pendant l'hiver. Après, s'il perd ses feuilles, il a peut-être manqué un peu d'eau à un moment donné. Peut-être que le terreau commence à être un peu épuisé dans son pot. Donc toujours pareil, hein, les plantes en pot, ça demande quand même un entretien assez régulier. Généralement, moi, un des indicateurs, quand vraiment la couronne de l'arbre ou de la plante dépasse de trop fort la circonférence du pot, je me dis que c'est le moment de changer le pot. Donc de passer sur un pot un peu plus gros, de changer le terreau, éventuellement même un bougainvillier, je pense qu'il peut apprécier avoir un peu de compost pour lui donner un petit coup de boost. Donc voilà, c'est l'hiver, c'est le moment de faire ça. Je pense que votre bougainvillier sera d'autant plus content de changer un petit peu de terrain.
Voilà pour cette question de Marie qu'elle nous a laissée par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On retourne au standard, rejoindre Marie-Josée. Décidément, vous êtes nombreuses les Marie-Josée ce matin. Vous habitez à Annecy et vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Et puis merci de ces émissions qui sont toujours, que je suis toujours de...
Avec fidélité.
Oui, et cœur.
C'est gentil.
Et bien, bon, j'ai des pommiers et je suis ennuyée parce que d'habitude, on a des cagettes et des cagettes de fruits. Et puis, l'année dernière, je ne me rappelle pas du tout, mais cette année, pratiquement, le meilleur de nos deux pommiers, en grattant bien, j'ai pu récupérer quelques mognons de pommes, mais c'était d'excellentes pommes qui s'appelle Peace Good, ça veut dire paix bonne.
Ouais.
Et là, vraiment, j'ai rien récupéré. Et qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ces vers? Alors, j'ai mis déjà des pièges à
phéromones.
Et apparemment, soit je les ai mis trop tard, soit c'était pas ça qui marchait. Mais de toute façon, j'ai pas eu de papillon dessus collé. Et puis, voilà, j'espère ne pas avoir une autre saison en ramassant seulement les pommes pourries par terre et pouvoir en manger quelques-unes et en donner. Elles étaient tellement grosses qu'une fois, il y en avait une si grosse, presque comme un petit melon.
Ah oui.
Et aussi bon, et très très bonne.
Bon.
It's good. Ah oui.
Alors, qu'est-ce...
L'autre pommier est une belle de Boscope.
Bon, alors Clément, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce petit pépin de Marie-Josée?
Bonjour Marie-Josée. Ouais, cette pomme-là donne envie de la croquer quand même, la Peace Good. Alors, toujours pareil, hein, ça peut être plusieurs causes. Donc, comme je disais tout à l'heure à Annie, peut-être s'il a pas produit, c'est à cause du gel ou d'une pluie sur les fleurs. Donc ça, j'y reviens pas.
Énormément de petites pommes, énormément sur l'un et sur l'autre. Alors que
d'accord.
Le
après, est-ce que c'est des pommiers qui ont quel âge à peu près, Marie-Josée?
Maintenant, ils doivent avoir une quarantaine d'années bien sonnées.
D'accord. Donc ça peut aussi expliquer une partie du problème. Peut-être que vos pommiers arrivent en fin de vie et qu'ils ont un peu moins de vigueur pour produire. Donc ça, faut peut-être commencer à penser à en replanter des nouveaux pour que vous ayez une production qui soit maintenue dans les années à venir. Et après, si vous avez des problèmes avec le Carpocaps, c'est peut-être ça, non, qui vous embête et qui fait pourrir les pommes.
Je ne sais pas très bien ce que c'est.
C'est une maladie des pommes, notamment.
Oui, ouais, c'est un ver dans la pomme.
C'est donc j'ai mis ces pièges à phéromones, mais j'en ai mis un pour les deux pommiers, c'est ce qui était marqué dans la notice. Mais j'ai surtout. Alors ma voisine me dit si tu avais des poules par-dessous. Elle gratterait, t'aurais pas de ces ennuis, mais là où ils sont plantés, je ne peux absolument pas mettre de poules.
Ah bah dommage, ça aurait été une bonne solution de mettre des poules.
Alors nous, pour essayer de limiter, nous on est touchés par le Carpocaps qui met un petit ver dans la pomme et qui, ça grignote la pomme de l'intérieur, ça donne pas très envie de les manger. Alors il y a plusieurs mesures à prendre. Hein. Déjà tous les fruits qui tombent, qui pourrissent par terre, vous les enlevez de dessous de l'arbre et vous les mettez au compost. Pour éviter d'entretenir le problème que l'insecte pond et que le ver se cache dans le sol et remonte sur l'arbre à la saison suivante. Donc ça, c'est une première manière d'éviter les soucis. Ensuite, nous, on éclaircit les pommes au printemps. Et notamment, on commence à... On éclaircit, c'est-à-dire on retire des pommes pour que l'arbre ait moins... pour avoir des plus grosses pommes, mais moins de pommes. Et on en profite justement pour retirer toutes les pommes qui sont touchés par le Carpocaps ou par d'autres parasites pour éviter que ça contamine tout l'arbre. Et ces pommes-là, on les met aussi au compost et finalement, ça va revenir à la terre, mais sous forme de compost. Donc ça, c'est deux mesures qui peuvent permettre de limiter vraiment les dégâts, notamment de certains parasites. Après, sur les vergers plus en production arboricole, intensive, ils mettent carrément des filets. Et là, ça permet vraiment de limiter les attaques des différents parasites.
Bon.
Mais à petite échelle, voilà, il faut un peu faire le tri et essayer de pas entretenir le parasite sur place.
Bon, bah Marie-Josée, c'est à vous de résoudre le problème maintenant. Et puis, une fois que c'est terminé, vous nous envoyez une cagette quand même de pommes. Elle ouais, donne envie, hein.
Oui. Plaisir.
Mais vous connaissez bien une octogénaire plantée. C'est la fable de La Fontaine. Et un petit gars qui passe par là se moque de lui. Eh bien, moi, je suis presque nonagénaire.
Eh bien, c'est bien, Marie-Josée. Merci beaucoup. Allez, merci de nous avoir appelés depuis Annecy au 04 72 38 20 23. C'est le numéro que vous pouvez composer ce matin pour venir à l'antenne poser toutes vos questions à Clément Doche, qui répond à vos questions. Clément, je rappelle que vous êtes jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. On écoute une nouvelle chanson du groupe Texas et puis on se retrouve juste après. On va parler de Terre et Humanisme notamment. À tout de suite. Mr. Hayes, c'était Texas sur RCF, extrait du dernier album Aïe du groupe.
Je pense donc j'agis se met au vert, Melchior Gormand.
Et on est en direct jusqu'à 11h avec vous, Clément Doche. Je rappelle que vous êtes jardinier, animateur et formateur à Terre et Humanisme. On va prendre notre dernière auditrice de la matinée, c'est Chantal. Chantal, vous habitez à Grenoble. Bonjour.
À la campagne.
Très bien.
J'ai un compost où je mets les épluchures, tout ce que je récolte dans le jardin qui n'est pas bon. Et cette année, c'est pas la première fois, mais là c'est très gros. Je crains fort que ce soit un rat qui vienne dans le compost. Il fait des beaux tunnels, il me remue tout mon compost. Qu'est-ce que je fais ?
Clément.
Alors ça, c'est une grande question, le compost et les rats. Alors ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver, notamment quand on est pas loin de certaines villes. Alors déjà, il faut se dire, le rat pour le compost, c'est pas grave pour le compost. Le compost n'en pâtira pas du tout. En fait, le rat vient simplement chercher le gîte et le couvert dans le compost, hein, parce qu'on amène des épluchures et des fois même il y a un peu de chaleur, donc les rats peuvent venir s'y nicher. Alors après, qu'est-ce qu'on peut y faire? Une solution, ça peut être de grillager le bas du compost pour éviter que les rats arrivent par le sol. C'est une solution seulement partielle. Après, on peut aussi couvrir son compost avec vraiment un couvercle Alors qu'il soit pas hermétique à l'air, mais en tout cas qui empêche le passage du rat. Donc c'est-à-dire faire des composts en bac, ça peut limiter l'intrusion des rats. Et après, il y a quelques plantes. Alors nous, on essaye des plantes. Il y a l'euphorbe épurge qui est censé éloigner la taupe. Et ça peut être quelque chose à parce qu'elle va diffuser dans le sol en fait des molécules qui sont un peu répulsives. Donc nous on l'essaye contre le rat en ce moment autour de notre poulailler parce que c'est vrai que notre poulailler a un peu attiré les rats dernièrement. Mais effectivement c'est un problème qui est un peu compliqué à gérer et on n'a pas la solution qui fonctionne à 100%. Je pense qu'il faut essayer plusieurs petites choses et des fois c'est la somme des petites choses qui permet d'éloigner un parasite un peu compliqué comme le rat.
Voilà Chantal, merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc j'agis au 04 72 38 20 23. Désolé à Marinette qui devait passer à l'antenne mais on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais quand même qu'on parle Clément Doche de Terre et Humanisme. Hein. Terre et Humanisme c'est un pionnier de l'agroécologie, on le répète souvent dans cette émission. Vous allez lancer une campagne importante ce lundi 29 novembre.
Exactement, ouais. Donc Terre Humanisme existe depuis 29 ans, je crois. Donc on commence à être grand. tous les ans, on lance une campagne de collecte de dons. Nous, c'est vraiment grâce aux dons du public qu'on peut continuer à faire nos projets. Alors à la fois de nos projets de transmission pour transmettre l'agroécologie, les changements de pratiques au niveau du jardinage et de l'agriculture au plus grand nombre. Et aussi amener les jardins vers des publics qui n'ont pas forcément accès. On a des programmes de jardins solidaires pour des personnes fragilisées, avec notamment l'association Habitat et Humanisme,
oui,
qui fait de l'accueil inconditionnel de personnes et qui, depuis quelques années, on les accompagne pour mettre des jardins au pied des immeubles, etc. Mmh. Donc vraiment, les dons, pour nous, ça nous permet de prolonger nos actions, de les pérenniser. Et de répandre l'agroécologie un peu partout et pour tout le monde.
Voilà, donc cette campagne, elle commence lundi 29 novembre. On pourra retrouver plus d'informations, d'ailleurs qui sont déjà accessibles, on peut le dire, sur le site terre-humanisme.org, Clément Doche.
Exactement, terre-humanisme.org.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant une heure, une fois de plus.
Merci, Melchior.
Un plaisir, c'était une belle première pour vous. Je vous mets la note de 10 sur 10. Je suis sympa.
Ouais, j'ai eu des super questions sur les arbres. J'adore les arbres.
Ah, je vous le dis, chaque semaine, les auditeurs sont super inspirés. C'est toujours un plaisir. Merci, Clément Doche. Merci aux équipes de Priva qui vous accueillaient ce matin en studio. Merci à Christophe qui était avec moi, à Mélissa, bien sûr, qui répondait à vos nombreux appels. Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages, vos questions, vos appels dans cette émission Je pense donc j'agis. Je vais vous souhaiter avec un petit peu d'avance un très bon week-end. On se retrouvera lundi comme chaque jour de 9h à 11h. On parlera de l'avenir de vos paroisses avec nos invités, avec Véronique Alzieux notamment. Ce sera entre 9h et 11h. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Je pense donc j'agis où vous pouvez poster vos messages et réagir aux émissions et puis discuter avec toutes les équipes Je pense donc j'agis sur Facebook. Bon week-end à tous.